Il y a un travail de terrain aussi à aller effectuer, quoi.
Voilà, il y a un travail rédactionnel et journalistique qui doit être important aussi dans nos rédactions. Ce matin, on n'est pas en train de balayer un journalisme plus classique et pour mettre en avant un journalisme numérique, ce n'est pas le but de l'émission ce matin. Henri Poulain, comme réalisateur, dans un instant, on parle et on entendra une partie du documentaire Démocratie sur le format, vraiment, sur la manière dont les journalistes posent leur voix, sur la manière dont est monté un sujet en télévision. Vous faites un travail particulièrement intéressant, vous, sur la forme en tant que réalisateur. Est-ce qu'on peut informer le citoyen en ayant des formats plus attractifs et comment y arriver ?
En fait, fondamentalement, tout ça, ça reste un récit. En fait, ce sont des récits, on raconte des choses, ça reste des histoires. L'histoire, ça ne veut pas dire nécessairement de la fiction, de l'abstraction ou quelque chose de décorrélé hors sol du réel. Oui. Ce sont des récits qui s'inscrivent dans la réalité et on les aborde ainsi. Nous, parce que la réalisation est aussi un travail collectif, on travaille par grande porosité et pas par silo, comme l'expliquait Sylvain précédemment, on s'attache à raconter quelque chose. C'est ainsi qu'on touche les gens, à ne pas asséner comme ça un discours d'en haut ou de côté ou peu importe. Mm-hmm. Ce qui est important, c'est de rendre intelligible le monde et le récit depuis toujours, hein, depuis l'Iliade de l'Odyssée, permet de le faire. Donc on s'attache à raconter quelque chose.
Et vous dites toucher des gens. On a le sentiment parfois, oui, quand on regarde un journal télévisé, quand on entend un journal radio par exemple, on n'a pas toujours le sentiment que nos sens sont vraiment en éveil, qu'il y a une émotion, mais pas nécessairement de la tristesse ou autre chose, mais une émotion positive qui devrait être suscité pour s'intéresser au sujet.
Oui, c'est vrai, c'est quelque chose effectivement d'un peu distant, mm-hmm, dans l'approche journalistique traditionnelle, classique, qui consisterait effectivement à accumuler des données, des chiffres, des faits, des éléments d'actualité, sans leur donner un peu plus de sens. Enfin, tout ça, il est quand même question de raconter la manière dont nous vivons ensemble. Hein, l'actualité, c'est ce qui relie les gens, c'est ce qui fait que nous sommes dans un espace commun, public, avec une destinée commune. Et comment raconter cette destinée commune ?
Oui, c'est un des garants. Oui, c'est des garants aussi, Henri Poulain, je vous coupe volontairement parce que le temps passe très vite ce matin comme d'habitude, un des garants de la démocratie, on en vient tout de suite dans le sujet démocratie, c'est un journalisme de qualité, un journalisme qui exerce cet esprit critique. On va écouter un petit passage de votre documentaire produit par DataGueule et financé en partie par l'audience, par les citoyens. Le documentaire Démocratie est en ligne depuis quelques jours.
Si la bine ne fait pas le moine, le mot ne fait pas la démocratie. Bonjour. La France n'est point et ne peut pas être une démocratie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel-Joseph Sieyès, député du tiers-état, figure essentielle de la Révolution française. Nous sommes le 7 septembre 1789 et celui que l'on appelle l'abbé Sieyès prononce ces mots à l'Assemblée nationale, né 3 mois plus tôt. J'ai toujours été pour une république libre, pas une démocratie qui est un gouvernement arbitraire, tyrannique, sanglant, cruel et intolérable. Cette fois-ci, ce sont les mots de John Adams, l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, dont il a été le second président. Mais alors quoi ? On ne parlait pas de démocratie pendant ces grandes révolutions ? Ce gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ? Assez peu.
Voilà le ton. Ensuite, on rentre dans des exemples très concrets dans le documentaire. Vous suivez à travers différents exemples en Europe. Ça peut être dans la région de Mulhouse, par exemple, Barcelone en Islande. Vous allez voir comment est-ce que certaines municipalités, certaines communes, comme on dit en Belgique, interrogent la démocratie. Je ne sais pas qui veut répondre, Sylvain Lapoix comme journaliste, Julien ou bien Henri Poulain. Quelle a été vraiment votre intention derrière ce documentaire ?
L'intention, c'est Julien Goetz du coup. L'intention, elle est vraiment d'interroger ce mot-là, démocratie. C'est-à-dire que on a lancé ce projet en pleine campagne présidentielle, dans laquelle ce mot-là était si présent. Et à force de l'entendre, on s'est dit mais il y a quand même un. En fait, qu'est-ce qu'on met chacun derrière ce mot-là ?
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ce mot démocratie ? Et donc on a voulu s'interroger sur ce que c'était que la démocratie. Et au départ, on est parti parce qu'on a fait un chemin d'un an et on a été transformé par ce chemin-là tous les trois par les gens qu'on a rencontrés, les choses qu'on a lues, les expériences qu'on a vécues. On essaye d'en rendre compte dans le film, mais à la base on s'était dit, voilà, on va y aller pragmatiquement, la démocratie, c'est le vote, on va prendre les choses un peu sur un plan technique. Et puis progressivement, on s'est rendu compte que ce mot-là, c'était sans doute une expérience de vie, parce que c'est ce qu'on a croisé quand on a croisé des gens qui pratiquaient la démocratie, et c'est ce qui nous a touchés intimement, profondément, et on a essayé de rendre compte de cette expérience de vie, de ce qu'est la démocratie, de ce qu'est ce mot-là, dans un film de 90 minutes qui est aujourd'hui disponible sur YouTube et Peertube.
Voilà, justement, voilà. Un film disponible, vous avez souhaité le rendre gratuit, libre de toute utilisation de droits, donc on peut le partager à l'infini.
C'est le cas de toutes les vidéos de DataGueule. On a une licence Creative Commons qui donc est une licence qui a été créée notamment pour dans le cadre de l'esprit d'Internet, de partage de savoir, et qui vise à et qui vise aussi à permettre sa diffusion dans tous les cadres non payants. C'est-à-dire dans n'importe quelle réunion, qu'elle soit politique, syndicale, dans des écoles, beaucoup de professeurs viennent nous voir pour nous dire qu'ils utilisent ce matériau-là comme matériel pédagogique. Bah là, c'est aussi un matériel, DataGueule est créé aussi comme un matériel, un support à débat. Et donc, on aime l'idée que n'importe qui peut créer un débat sur la base de notre travail.
Oui, quand on touche...
C'est juste un bien commun aussi. Ce film, notamment Démocratie, a été financé par 7819 personnes, des citoyens et des citoyennes de France et pas que, de Suisse, du Canada, etc. Et donc c'était de Belgique aussi. Et c'était donc normal de rendre ce film à celles et ceux qui l'ont financé, donc à tout un chacun.
Ouais, vous dites plusieurs fois en expliquant Démocratie que c'est plus un film qu'un documentaire. Je reviens à Bruxelles, on a besoin de formats plus longs. Jérôme Van Rooyschevelt, vous avez vu Démocratie,
oui,
le documentaire. Rapidement, on va marquer une pause dans un instant, mais votre sentiment, le côté pertinent d'un documentaire comme celui-là, à votre avis, pourquoi on a besoin de regarder ce type de film et de long format ?
Bon, mais déjà, il y a eu un travail de terrain qui était énorme et impressionnant, quoi. Et je pense que ici, ce sont des journalistes qui se sont donné le temps de travailler la question. Et je pense, bon, alors moi, je n'ai jamais travaillé dans aucune rédaction, mais en tout cas, de ce que je peux en voir de l'extérieur, c'est qu'effectivement, les journalistes maintenant sont soumis à une rigueur budgétaire, économique, qui fait qu'en fait, ils n'ont plus nécessairement le temps d'aller approfondir les choses. Et c'est pas manque de leur volonté à eux, mais c'est plutôt le système dans lequel ils sont incorporés. Et donc là, effectivement, c'est cette équipe a pris le temps d'aller approfondir un sujet. Et du coup, ça en ressort un contenu extrêmement pertinent, super critique et qui prête effectivement à débat et qui amène du débat démocratique en parlant de démocratie.
Est-ce qu'il faut du temps nécessairement quand on met en place et quand on traite des sujets, Jérôme Van Rooyschevelt, vous gérez en partie la communication d'une campagne citoyenne qui s'appelle Tam Tam. Quels sont précisément les thèmes que vous traitez dans cette campagne et pourquoi il faut du temps pour rendre audible auprès du public ce genre de thématique?
Donc nous on traite, en tout cas jusqu'à présent pour la saison 1, la thématique santé, justice et travail.
C'est la démocratie, vous interrogez la démocratie.
Effectivement, on interroge en fait les enjeux de société, ce qui a un impact sur les gens au quotidien, tous les jours, à travers effectivement des mesures politiques globales et macro, mais en rendant en fait, en vulgarisant les impacts concrets sur le terrain. Et en fait, nous, ce qu'on a fait comme travail, c'est récupérer tout le travail d'expertise qui existait déjà. Donc en fait, on a fait nous-mêmes, on n'a produit aucun savoir en tant que tel, si ce n'est la vulgarisation de ce savoir qui existait déjà. Donc c'était du travail académique, c'était du travail d'acteurs de terrain, des associations, et même parfois juste des témoignages de gens qui vivent ces impacts, l'impact de ces mesures au quotidien. Oui. Et donc le travail qui a été fourni était essentiellement sur la forme de d'outils de communication, de vulgarisation et de sensibilisation, quoi.
Et le web permet ce genre d'approche, il faut du temps, il faut des moyens. On prend le temps ce matin justement d'interroger la manière de faire du journalisme en mettant deux exemples en avant. On vient d'entendre DataGueule, le documentaire Démocratie. Dans quelques instants, nous aurons deux chroniqueurs, on va switcher un peu de sujet et puis on reviendra sur ce débat-là avec vous et un média qu'on ne connaissait pas en Belgique. Il vient arrivé, il est en marge d'un festival de musique. On verra aussi comment un festival de musique, par exemple, peut faire de la communication politique et peut faire en quelque sorte une sorte de journalisme alternatif. Le média s'appelle Tout va bien, on en parlera tout à l'heure, mais avant cela, une petite pause musicale si vous le voulez bien. C'est Police qu'on écoute ce matin. Can't Stand Losing You et puis les décodeurs reviennent juste après. Police sur la première, 10h31, un débat un peu plus large. Aujourd'hui, on parle démocratie, une équipe française avec nous, Datagueule, le documentaire Démocratie, un média qui s'appelle Tout va bien en Belgique. On en parlera. Ce sera jusqu'à 11h. Dans un instant, ce sera, et tout de suite d'ailleurs, Gilles Coistiot qui arrive en studio. On parle d'un assistant vocal, des robots qui imitent la voix humaine.
Les décodeurs RTBF sur la première.
Bienvenue Gilles, bonjour.
Bonjour Fabrice.
On parle d'intelligence artificielle, Google, et puis cette capacité d'imiter les humains.
Voilà, c'est la nouvelle conférence des développeurs annuels de Google actuellement. Il y a deux annonces qui ont été faites par Google avec cette intelligence artificielle qui se perfectionne. Mmh. Tout d'abord, le logiciel qui s'appelle aujourd'hui Smart Reply. Vous avez peut-être déjà vu passer ça dans vos mails, hein, dans vos Gmail. Il propose des réponses toutes faites aujourd'hui aux mails qui sont, par exemple, OK ou merci, bien reçu. Voilà, des choses relativement basiques. Eh bien, la nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Smart Compose permettra de comprendre le contexte et de proposer de véritables phrases de réponse à ces emails. Par exemple, si vous m'envoyez un email, Fabrice, eh bien, Google me proposera évidemment de commencer par un sympathique « Bonjour Fabrice ». Ensuite, il me proposera peut-être « J'espère que tu vas bien ». Et il terminera par « Passe un bon week-end » si jamais on est le vendredi. Donc, il saura qu'on est vendredi et que, voilà, on peut proposer toute une série de phrases et pourquoi pas une fonctionnalité qui permet d'avoir des vraies réponses plus humaines qu'aujourd'hui, en tout cas par rapport à ce logiciel. Alors, la fonctionnalité la plus innovante s'appelle aujourd'hui Google Duplex. C'est une deuxième fonctionnalité qui est développée par cette intelligence artificielle de Google. Là, elle va renforcer Google Assistant. Alors, Google Assistant, c'est quoi ? C'est cet assistant qui est dans le smartphone auquel on va parler et qu'on va interroger sur toute une série de tâches qui permet d'interagir vocalement avec Google. Il est présent aujourd'hui sur 500 millions de smartphones. Alors, ce Google Duplex, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va passer des coups de fil à notre place.
Dans quelles circonstances, Gilles, on peut dire qu'on va utiliser ce type de fonction ?
Alors pour l'instant, c'est limité à trois situations. Tout d'abord, la réservation d'un restaurant. Ensuite, une demande d'horaire d'ouverture d'un magasin. Et dernière fonctionnalité, prendre rendez-vous chez le coiffeur. Et on va entendre justement une de ces interactions, une de ces conversations entre Google Duplex et un véritable coiffeur.
On écoute.
Hello, how can I help you?
Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd.
Sure, what time are you looking for around?
At 12 p.m.
We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15.
Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.?
C'est assez bluffant, effectivement. On entend même quasiment des hésitations dans la voix de l'intelligence artificielle. Quel type de technique, à votre avis, Google utilise ici pour imiter les conversations?
Alors, il y a toute une série de techniques qui sont utilisées. Tout d'abord, évidemment, la reconnaissance vocale qui leur permet de reconnaître le coiffeur, de le comprendre, évidemment. Ça, c'est totalement ou quasi totalement au point aujourd'hui du côté de Google. Alors, les voix aussi sont beaucoup moins synthétiques qu'avant. C'est beaucoup moins des voix robotiques. Ça, c'est grâce au Big Data et à la collecte de données de conversations téléphoniques qui ont été faites par Google et qui permet d'avoir une voix beaucoup plus humaine. Ouais. Mais surtout, cette fameuse intelligence artificielle qui est développée aujourd'hui au sein de DeepMind, qui est une des filiales de Google, eh bien, on voit que cette intelligence est de plus en plus perfectionnée grâce notamment à cette technique qu'on appelle la technique des réseaux neuronaux. Alors, cette technique, elle permet de cerner beaucoup mieux le contexte, si vous voulez, de la conversation. Et par exemple, pour un peu mieux comprendre le contexte, eh bien, l'intelligence artificielle va poser une question complémentaire au coiffeur, ici en l'occurrence, ou alors elle va pouvoir répéter aussi certaines réponses sous des formes différentes, par exemple dire, voilà, plutôt que dire vendredi prochain, eh bien le 18, ou bien la semaine prochaine, pour bien se faire comprendre. Et pour être beaucoup plus humaine aussi, elle va jouer sur la rapidité de la réponse, par exemple, quand on dit bonjour, eh bien elle va répondre très rapidement bonjour, parce que c'est ce qu'on attend d'une personne humaine. Par contre, elle va peut-être prendre un petit peu plus de temps quand elle va répondre à des questions complexes. Il y a aussi une nouvelle intonation, et ces fameux qu'on entend, voilà, qui rendent cette conversation vraiment tout à fait humaine.
Voilà, que je fais de temps en temps en vous suivant. Exactement. Gilles, est-ce qu'on risquerait finalement dans quelques années de ne plus distinguer qui est humain ou qui est la voix robotique?
Alors c'est vraiment un des problèmes qui est posé par cette nouvelle technologie aujourd'hui. Pendant sa présentation, le CEO de Google n'a pas indiqué si le robot allait s'annoncer en tant que robot, finalement. Ouais. Mais voilà, Google a été interrogé par la suite et a indiqué qu'il ferait en sorte que tout le monde sache que c'est bien un robot qui est en ligne et non pas un humain. Mais on voit en tout cas qu'il devient possible bien qu'un robot, qu'un logiciel se fasse passer aujourd'hui pour un être humain. Alors ça donnera peut-être des idées aux vendeurs d'encyclopédies ou ou de vin ou de tapis qu'on a parfois au téléphone. Alors c'est pas encore l'équivalent d'un Westworld hein, où on voit, je sais pas si vous connaissez cette série Fabrice, où il y a des robots humanoïdes qui sont vraiment des copies conformes des êtres humains, ouais. Mais aujourd'hui vocalement, Google a réussi vraiment à imiter des êtres humains quasiment à la perfection.
Alors à votre avis, pourquoi Google développe ce type de technologie, Gilles?
Alors évidemment, ce qu'ils présentent, c'est ils veulent nous aider dans notre vie quotidienne. Hein, comme on est très paresseux, on n'a plus envie de passer toute une série de coups de fil. Donc, ils nous aident à ne plus faire des tâches soi-disant fastidieuses, hein, comme réserver un coiffeur ou un rendez-vous ou un restaurant. Alors bien sûr, c'est un peu de la communication hein, de la part de Google, mais derrière, qu'est-ce qui se cache? Eh bien, c'est la volonté de Google d'être finalement le principal intermédiaire entre le consommateur et le commerçant. Alors, on a remarqué que pour la recherche en ligne, c'est véritablement ce qu'ils sont devenus. Hein. Dès qu'on cherche un restaurant dans notre quartier, ou dès qu'on cherche à avoir un rendez-vous chez un coiffeur, justement, on va chercher son numéro de téléphone, on va aller sur le site internet, grâce à, notamment, au logiciel de Google. Alors, ils veulent faire exactement la même chose avec la voix. Ouais. Parce qu'on sait que demain, la voix deviendra une méthode d'interaction beaucoup plus importante, notamment grâce à ces assistants vocaux qui sont en train de se développer. Alors, évidemment, pour rentabiliser cette position d'intermédiaire, qu'est-ce qu'ils ont fait en ligne? Eh bien, ils ont développé évidemment de la publicité ciblée, et c'est probablement ce qu'ils arriveront à faire aussi au niveau vocal. Alors le risque pour les commerçants, c'est évidemment que demain, tout passe par Google pour toute une série d'interactions comme des réservations, par exemple. Et pour figurer en bonne place, évidemment, dans ces requêtes vocales, il faudra aussi, probablement, pour les commerçants, passer à la caisse, comme c'est le cas sur la recherche en ligne, où il faut acheter un petit peu de la visibilité sur le moteur de recherche Google. Donc, c'est pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour les commerçants.
Voilà, la voix en partie confisquée par rapport à ce Google. Toutes nos conversations téléphoniques seront-elles un jour pilotées par des robots, Gilles ?
Alors si la technologie évolue, on peut évidemment imaginer que ce Google Duplex ou d'autres technologies de ce type remplacent, pourquoi pas, les call centers. Hein, ce serait une évolution quelque part de ces menus déroulants qu'on a aujourd'hui qui sont proposés par des répondeurs automatiques. On pourrait imaginer une automatisation complète de ces call centers hein, qu'on appelle quand on a un problème par exemple avec son opérateur téléphonique. On peut imaginer donc que toutes nos interactions hors du cercle privé soient gérées à l'avenir par des robots. Ils ont plusieurs avantages, comme on l'a déjà dit plusieurs fois ici dans l'émission. Évidemment, ouais. Ils coûtent moins cher. Ces robots, ils sont disponibles 24 heures sur 24. Et évidemment, ils ne s'énervent jamais au téléphone.
Merci beaucoup, Gilles. Sachez que cette chronique a été réellement faite par des êtres humains, c'est pas bien, par hein. deux robots. Gilles Coistion, on vous retrouvera dimanche prochain. Merci d'avoir été là. À bientôt. Et c'est toujours une voix humaine qui vous parle. Merci à Gilles. C'est Frédéric Brabant qui arrive dans le studio dans un instant. On parlera du marketing, de la sueur. Oui, vous avez bien entendu. À tout de suite.
10h-11h sur la première.
Les décodeurs RTBF.
5 ans que mes appartements sont loués et que mon agence immobilière sociale se charge de tout. Les loyers sont versés chaque mois par l'AIS et elle assure le suivi administratif des locations. Les décomptes, l'indexation, les entretiens, tout ça, c'est du passé. Les AIS font leurs preuves depuis 20 ans. Alors je crois qu'on peut leur faire confiance.
Vous êtes propriétaire ? Cliquez sur fedais.be. Les AIS, la location, l'esprit tranquille.
Avec l'aide de la région de Bruxelles Capitale.
Avec Luminius, c'est simple de garder sa consommation d'énergie sous contrôle. Une réelle différence pour vous et pour la planète. Sur luminius.be/soleil, découvrez comment, en installant les panneaux solaires de Luminius, vous gagnez en liberté et en autonomie. Luminius, ensemble, faisons la différence.
Les décodeurs RTBF,
10h-11h, sur la première.
Voilà, 10h40, les décodeurs. Dans un instant, nous repartirons à Paris avec trois invités qui nous attendent pour la fin du débat sur le journalisme alternatif, la démocratie interrogée. Mais avant cela, c'est vous que j'accueille, Frédéric Brabant. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Frédéric, la campagne pub ou la campagne marketing du moment. Et là, on parle de sueur. Campagne plutôt étonnante, originale. Et là donc, une campagne qui a émergé sur un terrain de foot l'an passé.
Oui, le mois dernier, il s'agit d'une campagne que l'on doit à une agence de pub brésilienne qui a travaillé pour la multinationale Unilever. Alors Unilever, c'est un géant qui possède des marques comme les produits de soins Dove, le dentifrice Signal, la margarine Bessel, les Tilipton, etc. Et aussi les produits de lessive Omo. Au Brésil, il y a une déclinaison homo sport pour laver les tenues sportives souvent imbibées de sueur. Et donc, pour faire connaître cette marque sur le marché brésilien, Unilever a donné son feu vert à une campagne de pub originale menée sur le maillot de football de l'équipe des Corinthians. L'idée était de mettre en valeur le logo de cette marque homo sport de manière unique, c'est-à-dire en le faisant apparaître au contact d'un liquide, en l'occurrence ici la transpiration et donc la sueur des footballeurs.
Oui, donc si je vous suis bien, Frédéric, les joueurs devaient impérativement mouiller leur maillot au sens propre du terme pour faire la pub pour cette marque.
C'est exactement ça. Ce n'est que pendant le match que le logo Homo Sport est progressivement apparu sur les maillots de cette équipe brésilienne, ce qui a renforcé l'effet de surprise et donc l'efficacité de la campagne. Alors concrètement, d'un point de vue technique, le flocage du sponsor sur le maillot a été réalisé avec une encre hydrochimique, invisible au départ, et donc des micro capsule qui libère théoriquement cette encre au contact de l'eau et donc ici de la sueur. Le résultat était plutôt convaincant d'après les images du match, même si le logo n'est pas apparu de la même